La crise peut-elle être le moteur d'un possible renouveau démocratique? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités, le philosophe Jean-Luc Nancy et le journaliste Jean-François Boutor. Dans Démocratie, Hic et Nunc, qui paraît chez François Bourin, ils partagent leur point de vue pour tenter de comprendre la crise démocratique actuelle, mais aussi pour penser le renouveau qui vient. Bonjour à vous, Jean-Luc Nancy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour à vous, Jean-François Boutor.
Bonjour.
Bonjour. Crise, est-ce qu'on acte la crise démocratique? Si oui, quelles sont ses principales manifestations pour vous aujourd'hui, Jean-Luc Nancy?
Oh, crise, je dirais pas crise. Non, je dirais pas crise, je dirais que la démocratie, comme tout, est pris dans autre chose qu'une crise maintenant. C'est-à-dire, c'est un énorme mouvement de mutation qui est en train de se produire. Et nous en avons pour longtemps. Donc, je dirais, la démocratie, elle est en train de connaître peut-être, oui, alors, dans les temps modernes, sa première crise de croissance, si on veut. C'est peut-être ça, au fond. On est arrivé au bout d'une certaine vision, je dirais, essentiellement juridique, peut-être, de la démocratie. Et comme ça s'épuise parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes que les mécanismes juridiques. Et la démocratie est obligée maintenant de se repenser de fond en comble, c'est-à-dire de comprendre que, au fond, elle n'a jamais été une forme politique au choix parmi d'autres, mais elle est ce qu'il y a. Je crois que c'est peut-être de ça que notre livre est surtout parti. Elle est ce qui arrive quand il n'y a plus de possibilités politiques. Mmh.
Crise de croissance, dites-vous, Jean-Luc Nancy, a sorti d'une crise de confiance. Jean-François Boutor, peut-être raconter comment est né ce livre, cette discussion entre vous. Vous avez estimé que Jean-Luc Nancy n'était peut-être pas allé assez loin dans ses réflexions sur la démocratie, en tout cas qu'il pouvait approfondir à l'aune des événements récents. Sa réflexion autour de la question démocratique, une classe politique et une vie publique dépourvue de projets de transformation, nous dites-vous, et surtout de pensée politique que vous cherchez ensemble à réactiver. Vous notez l'un comme l'autre que les clivages n'ont pas disparu et que pourtant ils sont des voix discordantes qui existent aujourd'hui, qu'elles soient tièdes, réactes, subversives, progressistes, noient le débat plus qu'elles ne le revitalisent. Il était là, elle était là aussi, la crise d'un débat public, politique. Il faut repenser, Jean-François Boutor, à travers.
D'ailleurs, dans le livre, on n'emploie pas l'expression « la crise de la démocratie », on dit plutôt qu'il y a des crises des démocraties. Parce que comme Jean-Luc l'a dit, ce qu'on identifie comme la démocratie, c'est pas simplement une forme politique ou un projet politique, même s'il y a de la politique dedans. Pour revenir sur l'origine du livre, parce que c'est pas que je pensais que Jean-Luc Nancy n'avait pas tout dit. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je pensais lui demander un livre parce que je suis journaliste, mais je suis aussi essayiste, je suis aussi éditeur, enfin j'ai plusieurs casquettes comme ça. Et on s'était croisés comme ça quelques fois, on avait échangé quelques correspondances, mais pas énormément. Enfin, on n'avait pas de points communs. Donc je suis venu le voir pour lui demander s'il n'avait pas envie de remettre le couvert, si j'ose dire, sur quelque chose où il avait déjà, sur lequel il avait déjà travaillé. Et j'étais très très étonné de sa réponse, puisqu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire sans être provoqué.
Et c'est surtout que ce que j'avais écrit me semblait trop exclusivement philosophique, ou disons théorique, conceptuel. J'avais écrit deux textes précisément sur le fait que la démocratie n'est pas une forme politique parmi d'autres. Mais au-delà, j'avais besoin d'être stimulé par une intervention de quelqu'un du dehors, justement, du travail philosophique. Ce qui ne veut pas dire sans penser, parce que Jean-François pense autant que...
Voilà, alors Jean-François Boutor a joué ce rôle-là, à la fois de provocateur, d'objecteur de conscience aussi.
Parce qu'il a aussi apporté voilà. un énorme
Il faut dire ce que c'est que la provocation, parce que, en fait, c'est une manière d'appeler une pensée et de se dire que... Et c'est là où c'est à ça que je voulais revenir, c'est que notre conviction, c'était qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans faire... soi-même, d'une certaine manière, l'expérience fondamentale dans la démocratie qui est celle de la délibération. Donc on a risqué la confrontation de nos deux paroles d'abord. Et on s'est beaucoup écouté l'un l'autre, discuté l'un l'autre, avant même de savoir exactement quelle forme allait prendre le livre. Ce qui était assez clair, c'est qu'il fallait essayer de redire, de préciser des mots, des catégories, qui sont employés à tout bout de champ dans l'espace public, sans que on sache vraiment de quoi on parle. Donc on s'est dit, de quoi on parle ?
Très bien, commençons par le premier d'entre eux que vous venez d'utiliser, délibération. Pourquoi vous dites délibération et pas dialogue ?
Délibération dans le cadre de la démocratie, d'abord parce que ce mot porte en lui-même quelque chose d'assez beau, qui est aussi derrière délibération, il y a délivrance, il y a ouverture de quelque chose. C'est pas simplement le plaisir de la conversation. Pour ça, le plaisir de la conversation, on peut l'avoir avec beaucoup de gens tout le temps. Délibération, ça veut dire en même temps que on essaie de confronter les idées, de les frotter les unes contre les autres, qu'elles s'entraînent l'une après l'autre plus loin. L'expérience que j'ai faite en travaillant sur ce livre, puisque c'est moi qui ai repris l'ensemble des dialogues qu'on avait eu, l'ensemble de la délibération qu'on avait eu pour essayer d'en trouver une première mise en forme sur laquelle que j'ai soumise à Jean-Luc pour qu'il intervienne. Ça a été souvent de me rendre compte qu'il fallait déplier ce qu'on avait dit, qu'il y avait quelque chose qui s'entendait en le relisant, en le retravaillant, qui m'était pas paru immédiatement dans la conversation sur laquelle je n'avais pas bondi. L'autre chose assez drôle, je trouve, c'est que les rares fois au fond dans le premier jet que j'ai envoyé à Jean-Luc, j'ai utilisé des expressions qui étaient mot pour mot les siennes. J'ai eu un retour de Jean-Luc qui m'a dit « Oui, mais quand même, il faudrait expliquer, il faudrait aller plus loin, ça suffit pas. » Donc c'est ça l'enjeu.
C'est ça, exactement. Oui.
La délibération, c'est être capable de dire « Mais ça suffit pas. »
Et alors, on peut dire autre chose, c'est que la délibération, c'est un terme juridique aussi. Un jugement émis en délibéré. Ça veut dire qu'il s'agit d'aboutir aussi à une décision. Quand on parle de débat et de dialogue, on a l'impression que c'est juste pour... Échanger des points de vue, des vues. Non, mais la délibération, c'est aussi une recherche. C'est une recherche pour aboutir à quelque chose. Pour autant qu'on ait abouti à quelque chose, je crois que, en effet, on a quand même délibéré de comment est-ce qu'il faut penser la démocratie pour correspondre à ce qu'elle est, c'est-à-dire justement autre chose que simplement une forme politique.
Et la délibération, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ce qu'on trouve aujourd'hui, à vos yeux, dans le débat public ou dans l'espace public, et notamment sur ces questions-là. Vous dites qu'on est entré dans un régime de communication générale des informations et des opinions. Ça, c'est pas la délibération.
Ah non, c'est tout le contraire. Non, c'est tout le contraire. La communication est surtout telle qu'elle se présente à travers, maintenant faut dire, les réseaux sociaux, mais c'est pareil, tous les échanges d'opinions qu'on peut entendre ou voir à la radio, à la télé, se montrent toujours de façon tellement évidente qu'on a affaire à des présupposés desquels aucun des interlocuteurs en général ne veut démordre. Bon. Or, s'il y a quelque chose qui est philosophique, c'est de s'interroger sur ce qu'il pourrait y avoir de présupposés dont peut-être on ne s'aperçoit pas, bon, d'une part, et d'autre part, ce qui est certain, c'est que s'il y a quelque chose de démocratique, c'est justement qu'il n'y ait pas de présupposition. Par exemple, même pas de présupposition sur ce que c'est que le peuple, ni de présupposition sur ce que, sur tout ce qu'on appelle nation, pays, identité. Or, tous les débats aujourd'hui sont fait que bourrés de présupposés et de présupposés épais, coriaces. Et on a l'impression qu'ils s'épaississent même de jour en jour.
Ce que je dirais aussi dans une délibération et qui ne s'observe pas au fond dans les sur les plateaux de télévision qui enchaînent des débats les uns après les autres, il y a une prise de risque d'être emmené ailleurs que là où on voulait aller, c'est-à-dire de découvrir des choses qu'on n'avait pas présupposées, comme disait Jean-Luc, sur les échanges d'opinions, le marché des opinions auquel on assiste quotidiennement maintenant. Au fond, on nous assène des positions qui sont là pour l'emporter sur l'autre. Or, entre Jean-Luc et moi, il n'y avait aucune envie de l'emporter sur l'autre. Il y avait plutôt l'envie que l'autre m'emporte un peu plus loin, je crois.
Vous repartez l'un et l'autre dans cet ouvrage « Démocratie, hic et nunc » de 1989. On commémore justement cette année les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Pourquoi être parti de cet événement, de cette aspiration, de ces aspirations populaires aussi, pour définir et tenter de mieux cerner la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle devrait être demain ?
Je vais vous surprendre, il n'y avait pas d'intention première à ça. C'est-à-dire que nous avons travaillé ensemble et au moment de commencer à écrire, je me suis dit, mais en fait, le livre sort 30 ans après, 30 ans après des événements que moi j'ai suivis personnellement à Berlin, à Prague, à Moscou, à Bucarest, etc. J'ai pas suivi toutes les révolutions les unes après les autres, mais j'ai suivi ça aussi dans le long terme, j'ai suivi ça pendant 10 ans. Et on a assisté à ce moment-là à quelque chose dont nous avions profondément parlé, comme le point de départ de la démocratie, c'est l'effondrement de régimes qui se donnaient comme conduits par une transcendance idéologique, philosophique, religieuse souvent. Enfin, on sait bien que le communisme, c'était une certaine forme de théocratie, d'une certaine manière, dont le dieu était mis en scène, en tout cas à l'époque de Staline, intuitu personné. Donc c'est de ça qu'on est reparti, parce que qu'est-ce qui s'est passé là ? On a vu s'effondrer effectivement un régime politique, des régimes de pensée aussi d'une certaine manière, qui ne fonctionnaient plus, avec une formidable aspiration à la liberté, et d'une certaine manière, ça suffit pas pour faire de la démocratie. Il y a de la démocratie à un certain nombre d'endroits, mais pas partout. Certainement pas vraiment à Moscou, par exemple. Difficilement en Hongrie. On a vu aussi des débuts de démocratie régresser. On a vu la Yougoslavie, qui était sans doute un des pays les plus ouverts, sombrer dans un nationalisme guerrier. Donc il fallait se demander qu'est-ce qui s'était passé là, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné.
De l'effondrement...
Moi, j'ajouterais, si vous permettez, ouais. J'ajouterais que je... Enfin, depuis qu'on a fait le livre et tout, j'ai presque envie de d'étendre la chose, de dire, en fait, il y a que deux catégories, démocratie ou théocratie. Voilà. D'une certaine façon, il suffit même pas de dire la démocratie n'est pas une forme politique, mais la démocratie, c'est la forme de la politique en général, dès qu'il n'y a pas théocratie, quoi qu'on mette sous le mot théo. Bon, comme Jean-François vient de dire. Parce que, pour moi, ce qui me frappait, c'était pas 89 d'ailleurs, ça c'est lui qui a pris 89 comme point de départ, mais pour moi le point de départ c'était la Grèce, la démocratie grecque, elle n'est pas venue d'un progrès comme ça, dans ne sait quelle lumière de grec, elle est venue du fait que toutes les théocraties ou tous les systèmes, disons, où il n'y a pas pouvoir central, étaient effondrés.
Alors, entre Athènes et la chute du mur de Berlin, il y a aussi 1789. Je vous propose de repartir à travers un extrait du film La Révolution française de Robert Enrico et de Richard Efron, film sorti en 1989 sur le discours de Robespierre pour la fête de l'être suprême. L'être suprême qui était inscrit, ces mots, dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme avant d'en être gommé.
Peuple de France, République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui
voudraient
vous
persuader. Oh, il parle encore.
Que vos destinées sont dirigées par une force aveugle et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort.
Il se prend pour le
pape. Je ne parle pas d'un dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature, son temple, est l'univers, son culte, est la vertu.
Jean-François Boutor, alors est-ce qu'il avait raison, Robespierre, quand il n'y a plus quand il n'y a plus de dieu aujourd'hui, plus de leader, plus de monarque, est-ce qu'il faut trouver une autorité supérieure vers laquelle se tourner?
La question, c'est ce que fait Robespierre, c'est qu'il essaie d'inventer une religion civile, puisque effectivement le pouvoir
civil, ne laïque presque à sa manière.
Oui, bien sûr, parce que on vient d'abattre un roi de droit divin, donc il faut trouver une autre autorité qui permette de justifier que c'est le principe de la démocratie, que ce qu'on a délibéré, les décisions qu'on a prises s'imposent à tous et que tous les respectent. Donc de quelle manière le faire? Alors effectivement, Robespierre cherche une forme de religion civile, comme il y avait d'ailleurs à Rome. Alors c'est pas une démocratie, Rome et la République étaient construites sur une religion civile. Rome était d'une certaine manière sa propre transcendance, dans laquelle pouvaient vivre des tailleurs de religions différentes, à condition que tout le monde respecte la religion civile romaine.
Vous employez...
Oui, entre Rome et Robespierre, on pourrait dire qu'il y a eu les États-Unis. La fondation des États-Unis est peut-être la seule fondation moderne qui se réclame d'une transcendance religieuse, quand même. C'est Dieu qui est invoqué au début de la Déclaration d'indépendance. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense que maintenant c'est en train de se terminer, mais jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné. Au contraire, la Révolution française, je pense, n'a pas justement cette présupposition américaine qui tient à qui étaient les pères fondateurs, d'où ils venaient et de quel genre de religion il s'agissait. Dans le vieux pays catholique qu'était la France, je pense qu'en fait le saut du bon Dieu à l'être suprême était un salto mortal et d'ailleurs ça n'a pas marché. Mais ce qui est vrai, c'est que après Robespierre et longtemps après lui, il y a eu des grands républicains qui auraient bien voulu arriver à une forme de religion civile. Or, peut-être que la crise de croissance dont je parlais tout à l'heure, c'est celle-là. Maintenant, on sait qu'il ne peut pas y avoir de religion civile. Il y a des républicains, même des collègues philosophes républicains qui, il y a 20 ans encore, regrettaient la disparition de la République. Donc, s'il n'y a pas de religion civile, alors
que faut-il
penser autre chose.
Alors, est-ce que c'est là qu'intervient ce que vous nommez l'autotranscendance, qui est quand même un oxymore hein, dans sa manière aussi d'être pensée. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il faut, en quoi faut-il que la communauté reconnaisse quelque chose qui la dépasse pour pouvoir exister?
En quoi? Mais parce que, justement, la communauté nue, la communauté sans principe d'union qui la domine, n'a rien pour s'identifier. Si elle veut s'identifier par quoi? Par une origine? Les Gaulois? Bon. Par une langue? Une langue ne fait pas une identification politique. Une langue, le français est parlé par d'autres peuples que les Français. Bon. Donc, non. La communauté, la communauté ne peut jamais être assurée d'elle-même. Peut-être que justement la communauté, c'est l'endroit où la présupposition défaille complètement. Ou alors c'est une communauté qui fonctionne selon ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme. En effet, si je dis c'est la communauté des croyants, que ce soit des croyants en Allah ou des croyants en Jésus-Christ, des croyants en Astarté, il y a une présupposition et il y a une fondation. Mais la communauté tout court, qui est en effet ce que le mot communisme a apporté, ou dont le mot communisme a porté l'exigence plutôt, même si en même temps, sous les formes du communisme réel, ça a été complètement trahi, dévasté même. Mais le commun de la communauté, le commun, il ne peut se trouver qu'en dépassant de lui-même ce qu'il est quand il est simplement lui-même, c'est-à-dire par exemple là, voilà, on est ensemble là dans cette pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet ensemble? D'où vient-il? Comment fonctionne-t-il?
Voilà, et ça vaut pour le peuple démocratique qui, à vos yeux, n'existe pas par essence, hein, qui est celui qui se découvre en se donnant aussi une loi, sans être enfermé dans des déterminismes ou des déterminations fixées par avance. Ce peuple que nous formons, c'est ce peuple qui se découvre et se forme dans ce qui se noue par son rassemblement. Jean-François Boutor, vous faites référence à Cornelius Castoriadis aussi dans cette réflexion, avec cette lecture qu'il avait de la démocratie et cette critique de la démocratie représentative. On l'écoute.
J'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ses représentants représentent très peu de les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes ou des intérêts particuliers ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, hein. Les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Or, même ça, c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit, voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner.
Voilà, Cornelius Castoriadis en 96, au micro de Daniel Mermet, vous appuyez aussi, vous insistez sur cette idée que l'autonomie passera par l'instruction ou ne passera pas. Aujourd'hui, nous ne formons plus de citoyens, l'école ne forme plus des citoyens. Jean-François Boutor, Jean-Luc Nancy.
Oui, d'abord, pour reprendre Castoriadis, je voudrais juste revenir sur ce qu'il dit, parce que il est au même temps pris à sa propre contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois, il pense qu'il faut instituer les citoyens, il faut les fabriquer, et que l'éducation est faite pour ça. Il sait que ça prend du temps, et dans ce qu'il nous présente là comme la démocratie, il voudrait faire l'économie du temps. C'est-à-dire qu'il voudrait que la démocratie soit toujours égale à elle-même, que la représentation soit raccourcie dans l'immédiateté. Or, précisément, l'éducation, elle sert à quoi? Elle sert précisément à faire comprendre à ceux qui deviennent des citoyens, que précisément quand ils sont gouvernés, ils accordent du temps à ceux qui les gouvernent pour réaliser le mandat qu'ils leur ont confié. Et donc, on a bien besoin d'une représentation. Le problème, c'est que cette représentation nous conduit à constater qu'elle n'est jamais, si j'ose dire, identique aux représentés. Elle n'est jamais dans la similitude, elle n'est jamais dans la pure coïncidence. Il y a toujours un écart, c'est ce que disait l'ami et en même temps adversaire de Castoriadis après qu'ils se soient séparés, Lefort, qui disait, au fond, la démocratie, c'est un lieu qui est toujours en écart avec lui-même d'une manière tellement absolu que, au fond, c'est presque insupportable. C'est ça notre difficulté, c'est que c'est difficile.
Oui, mais cet écart porte, tel que vous le racontez aussi, porte en lui une promesse, la promesse d'un objectif à atteindre, ou en tout cas toujours à réaliser, à tenter d'être réalisé.
Jean-Luc
Nancy.
Oui, mais oui, une promesse, mais une promesse par essence. Peut ne pas être tenu. Donc, il suffit pas que ce soit la promesse. Il faut aussi que justement une certaine formation rende le citoyen capable d'être au fond lui-même le sujet de la promesse et donc de savoir aussi qu'il peut ne pas la tenir. Et une formation comme ça, vous voyez, puisque vous posez la question, tout d'un coup, je me dis comment est-ce que 1789 a été possible? Mais par une très très longue formation qui ne concerne même pas seulement le XVIIIe siècle. La transformation des savoirs, des manières de s'adresser au savoir, évidemment du rapport à la religion, mais entre autres, et du coup du rapport au pouvoir royal, etc., et de toute la conception de l'humanité, de la société. Voilà, ça, c'est un travail de culture qui date, disons, pour dire le plus court, du XVIe siècle au moins. Bon. Il y a deux siècles de formation, passant d'ailleurs peu à travers sans doute les écoles, mais pas non plus, pas du tout. Parce que je pense que dans des collèges de jésuites, on recevait sans doute, dans certains au moins, une formation qui était beaucoup plus efficace pour préparer à la démocratie que ce que peut-être ensuite, après 89, dans ce que nous avons cru pouvoir être une normalisation. Vous savez, les écoles normales, ça a été institué par la Convention, avec l'idée de normaliser le peuple, c'est-à-dire de lui faire non seulement parler la même langue, mais se servir des mêmes mesures et penser de la même manière, c'est-à-dire penser la République. Là, peut-être que là aussi, il y a une grande crise, parce que nous ne pouvons plus, d'ailleurs nous le savons même pratiquement, nous ne pouvons plus, comme ça, répéter la leçon républicaine aux jeunes enfants. Il faut faire autre chose. Il faut que se produise une autre formation, peut-être pas exclusivement d'ailleurs à travers l'école, peut-être aussi une autre formation de l'école elle-même, une autre institution de l'école, pour que en effet, un citoyen, simplement un citoyen puisse émerger. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme Castoriadis le disait, c'était Aristote, qui puisse à la fois gouverner et être gouverné.
La démocratie est toujours à refaire. L'effondrement ne la garantit pas, nous dites-vous, Jean-Luc Nancy, et vous, Jean-François Boutor, dans ce livre que vous avez co-pensé, co-écrit, fruit de votre dialogue, délibération, démocratie, hic et nunc, qui paraît aux éditions François Bourin édition, pardon. Comment refaire démocratie? Comment refonder la démocratie ou la repenser actuellement, un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, qu'on a qualifié d'ailleurs de révolte populaire? Et je rappelle que dans ce livre, vous vous interrogez beaucoup sur ce qui fait peuple aujourd'hui, ou c'est qu'est le peuple de la démocratie en tout cas. Je vous propose d'écouter un extrait de l'Assemblée des Assemblées, dont la prochaine aura lieu à Montpellier, extrait du deuxième appel de Commercy.
Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l'écoute sont reines. Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions, pas l'inverse. Pas comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos revendications populaires, égalitaires, sociales et écologiques.
Jean-François Boutor, est-ce que là vous voyez dans ce qui s'est passé en France dans la dernière année les prémices d'une redéfinition, d'une rediscussion même de ce mode d'expression de la démocratie?
Ce que j'entends, et on l'entend très bien là, ce que j'entends surtout, c'est un retour, une tentative de revenir vers ce qui a maintes fois échoué dans l'histoire, c'est-à-dire la démocratie directe. Les soviets, d'une certaine manière, et je dis ça sans aucune péjoration du mot, les conseils. Hannah Arendt aimait beaucoup les conseils. Mais le problème de ce genre de fonctionnement, c'est que peut-être c'est possible à l'échelle d'une commune, peut-être même d'un département. Mais les problèmes auxquels on est affronté aujourd'hui sont si complexes que penser qu'on va être dans la délibération permanente et attendre que de ça sortent les idées magiques qui vont régler ces problèmes-là, c'est tout simplement courir à la catastrophe, malheureusement. L'autre problème qu'il y a dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que qui se proclame comme assemblée, qui se proclame comme conseil et qui accepte de parler avec qui? Ce à quoi on a assisté pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'était précisément l'impossibilité de parler avec des interlocuteurs qu'on n'avait pas directement cooptés. Donc c'est pas vraiment... Enfin, le peuple n'est pas le peuple, c'est une fraction du peuple qui se prétend capable de libérer tous les autres. Mais ça, c'est aussi une vieille histoire, c'est aussi une vieille lune de l'histoire politique.
Alors quoi? Vous avez l'air de dire que cette démocratie directe, elle est praticable à l'échelle locale, elle est éventuellement praticable aussi sur des thématiques très précises, comme on le voit avec la convention citoyenne qui a été mise en place pour le climat, cette assemblée de Français tirés au sort, chargée de faire des propositions sur les enjeux climatiques avant un éventuel référendum. Si on voit aussi les faiblesses ou les dérives de la démocratie représentative, si on pense que la démocratie directe n'est pas applicable avant tout, en tout cas à une échelle plus large. Jean-Luc Nancy, et ce sera le mot de conclusion, par quoi on commence pour repenser la démocratie?
Malheureusement, je dois dire que je pense qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui pèse plus lourd que tout ce qu'on peut dire en faveur de ou pas de la démocratie plus ou moins directe, plus ou moins représentative. Ce phénomène, c'est c'est ce que, d'un côté, on désigne par la mondialisation, mais c'est la domination mondiale, en effet, d'un système économique et technique qui représente une telle complexité que, précisément, l'Assemblée citoyenne qui doit s'occuper du changement climatique, très très vite, elle va se trouver devant des questions d'une technicité telle que Qu'est-ce qu'on fait vraiment avec l'énergie nucléaire, par exemple?
Question très technique.
Seulement ouais. Ça. Bon. Et je pense qu'à travers le monde entier, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous savez, à Santiago, à Hong Kong, à Beyrouth ou en France avec les Gilets jaunes, qu'il y a comme ça ces soulèvements genre, en dehors de toute les structures politiques et même syndicales et tout classiques, c'est que tout le monde se sent pris dans une énorme machine aux commandes de laquelle personne n'a accès, et sauf voilà. La machine elle-même.
Et bon, alors du coup, il va falloir vous lire pour essayer de tenter de penser plus en avant ce qui se joue aujourd'hui.
De penser notre rapport à la machine et à la technique.
Autre sujet de conversation, autre rendez-vous. J'espère que ce sera pour bientôt. Jean-Luc Nancy avec vous, Jean-François Boutor. Démocratie hic et nunc, c'est le titre de votre dernier essai qui vient de paraître chez François Bourin Édition. Grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix et Henri Leblanc avec l'aide précieuse de François Bréhus et de Sophie Marty. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Éric Lancien avec Jacques Hubert et à la vidéo, Jordan Fuentes et Valentin Bobinet. Merci, très bel après-midi sur France Culture.